Session de philosophie de la nature et du vivant par le Père Marie-Dominique Philippe Arimont, le 22 décembre 1994, 7e conférence.
Les arbres. Ce sont des distinctions, il ne faut surtout pas séparer. Développement supérieur, c'est l'intelligence. cardiaque de la maternité divine de Marie. Vous savez ce qui est dit, hein, ce qu'on voit dans l'Apocalypse, chapitre 12, quand on voit la femme qui porte son enfant et qui va enfanter, et le dragon est là pour tout de suite accaparer l'enfant. C'est extraordinaire comme chose. L'accaparer l'enfant, le retirer à sa mère et le mettre dans d'autres mains, alors que l'enfant, dans la vision de Dieu, il est à la mère. Il est lié à elle. Et la mère peut, seule, être vraiment celle qui est en connaturalité vis-à-vis de lui. Et le père le sait très bien. C'est la mère qui continue. Après avoir attendement, après avoir porté l'enfant, elle continue d'être son milieu. Et c'est elle qui l'éveille en premier lieu au point de vue de la sensibilité et de l'affectivité. Et qui le nourrit. Alors, regardons, après avoir tout de suite regardé la maternité, parce que c'est cela qui nous fait comprendre l'état de dépendance radicale que nous avons tous connu, que nous ne pouvons pas nier, que nous devons reconnaître, et comprendre que cet état radical de dépendance n'est pas du tout une humiliation, n'est pas du tout quelque chose qui nous diminue, mais au contraire, quelque chose qui nous agrandit. Cette coopération de l'enfant et de la mère, et ça reste toujours quelque chose de très grand et de très beau, ça. Cette coopération, cette seconde, vous voyez, les deux coopérations, la première, dans la passivité du développement de la vie végétative de l'embryon, mais avec la responsabilité, et une grande responsabilité unique. Puis, le second moment de la coopération, après la naissance, le premier moment de l'éducation maternelle, du développement de l'enfant avec sa mère, où il y a quelque chose d'unique qui ne peut pas se faire. Vous savez, ce que j'ai constaté, à un moment j'allais régulièrement prêcher en Israël, à Jérusalem, ayant ma sœur qui était prieure du prieuré bénédictin au Mont des Oliviers, j'avais promis d'y aller régulièrement. Et donc, j'ai pu vivre certains moments très importants du peuple d'Israël. C'était très intéressant et merveilleux d'une certaine manière, et en même temps, tous les problèmes que ça pouvait soulever. Alors, j'ai visité comme un kibboutz religieux, parce qu'on m'avait dit que c'était les seuls qui étaient vraiment intéressants à voir. Alors là, on a enlevé l'enfant à la mère. On lui donnait, on laissait l'enfant 2 heures à la mère par jour, pas plus, surtout pas la nuit. 2 heures, pour que la mère n'accapare pas. Ils étaient éduqués par des infirmières diplômées d'État, et donc parfaitement stylisées pour être, faire des enfants pour la nation. C'était le but. Être vraiment entièrement pris. J'avais rien à dire. Je posais des points d'interrogation. 10 ans après, j'ai eu l'occasion d'y retourner. J'étais entre deux, mais en visite à un kibboutz religieux. Et là, c'était un jeune Espagnol qui faisait visiter. Visiblement, c'était quelqu'un qui était catholique, qui était devenu, qui avait repris la religion juive. Parce qu'il me disait, mon père, tout le temps, si vous trouvez l'espagnol, c'était très visible. Alors, visite avec lui, pas posé des questions, je lui pose la question, je lui dis, mais comment ça se passe pour la première éducation? Alors il m'a regardé en souriant. Ah, il me dit, ah oui, 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 on fait des choses nouvelles maintenant, si tiens. Oui, oui, on laisse l'enfant à la mère. Ah, il me dit, ah bon, et pourquoi? Ah oui, parce qu'on a vu que retirer l'enfant à la mère, c'était de fait empêcher un certain développement de l'intelligence. Or, comme Israël est très sensible à l'intelligence, on a vu tout de suite qu'il y avait comme un arrêt, parce que l'enfant n'avait pas l'affectivité que la mère pouvait donner. L'État ne peut pas remplacer la mère, même si le chef d'État est très maternel, ne peut pas remplacer. C'est impossible, c'est-à-dire, la mère, ça ne se remplace pas. Personne ne peut la remplacer. C'est naturel, c'est fondamentalement naturel. C'est l'alliance première de Dieu avec l'homme. C'est l'alliance maternelle de l'enfant et de sa mère. C'est pour ça que quand on brise ça, c'est si terrible. Parce que radicalement, on brise l'espèce humaine. C'est quand on essaie de comprendre un peu. Alors, il m'a expliqué tout simplement devant tout le monde. Oui, au bout de quelques années, je lui dis, oh, il n'y a pas si longtemps que ça. Depuis, on a cru que ça pourrait aller, que ça irait mieux. On a essayé de changer les infirmières, mais on a vu que non. Il y avait du retard. Alors, on laisse l'enfant hein, aux parents. Alors, il ajoute, mais à 14 ans, vous savez bien, il y a les conflits. Du gosse avec le père, de la fille avec la mère. Alors, à 14 ans, on les reprend. On les fait pensionnaires à ce moment-là, volontairement. Et on les donne comme quelques-uns. Alors, quand il m'a expliqué tout ça, je lui ai dit, dans 10 ans, je reviendrai. Et alors, il a souri. Il a dit, oui, très bien, dans 10 ans. Pour moi, ça m'a beaucoup éclairé. Comme pour voir le fondement naturel de la famille, comme c'est enraciné dans notre vie végétative. C'est quelque chose de formidable. Alors, si on croit en Dieu qui crée l'âme, c'est extraordinaire de voir ça. Cette première alliance de Dieu avec l'homme et avec la mère. Parce que l'âme est créée dans l'embryon, et donc dans le sein maternel. Il y a quand même quelque chose de... C'est pour ça que la première alliance, elle est maternelle. Elle est fondamentalement maternelle. Alors ça donne une très grande lumière sur le mystère de la maternité divine de Marie. Et ça fait comprendre comment la grâce radicalement peut tout transformer. Mais tout transformer en respectant, n'est-ce pas? C'est-à-dire en donnant une lumière nouvelle. Quel est le point de départ de la vie végétative? C'est la nutrition. La respiration. On le sait. Le premier moment de l'autonomie de l'enfant, c'est sa première respiration. Tant qu'il n'a pas respiré, il est dépendant de sa mère. Mais radicalement, fondamentalement, quand il respire, il est un être qui vit un milieu qui lui donne l'oxygène, qui lui permet de vivre. La respiration, l'aliment, la nutrition, c'est cette première opération si extraordinaire du vivant qui assimile et qui transforme quelque chose qui n'était pas lui en lui-même. C'est là, j'allais dire, pour le philosophe, quelque chose d'étonnant sur lequel il pourra réfléchir indéfiniment. La différence entre un monde quantitatif, physique, où de l'extérieur on additionne le tas de briques, chez les Grecs, ensuite les Briques. Ce qu'il y a d'extraordinaire chez le vivant, c'est que le vivant dévore. Le vivant mange. Il assimile. Le milieu qui lui est donné, il le fait sien. Il le transforme en lui. En son sang et en son corps. Il le fait sien. Ce passage, vous voyez, de quelque chose d'extérieur à l'immanence du vivant. L'opération première à laquelle il faut tout le temps venir au point de vue du vivant, c'est l'assimilation, qu'il s'agisse de la respiration. Ça se voit moins dans la respiration, mais c'est le même phénomène. Oui, l'assimilation, où le vivant progresse en prenant ce qui est donné dans son milieu de vie pour le faire sien. Assimilation substantielle, c'est sûr, avec ce discernement qu'on assimile ce qui est assimilable et qu'on rejette ce qui n'est pas assimilable. Vous voyez, le premier discernement qui se fait instinctivement dans notre vie végétative. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que ça montre ce que c'est que la vie. Hein. Premier moment de la vie, c'est ça. Et c'est vrai. Et lorsque on ne mange plus, on n'assimile plus, on sait que ça ne peut pas durer tellement longtemps. Lorsqu'on respire plus, on sait que c'est la fin. Le premier signe de la vie et le dernier signe de la vie. Et toute notre vie végétative, elle est fondamentalement basée sur l'assimilation du vivant. Les grands vivants assimilent tout ce qui est bon pour eux. Les petits vivants ont besoin d'un régime. Quand vous commencez par avoir besoin d'un régime, attention. Évidemment, on n'est pas des boas qui mangent des petits lapins vivants, n'est-ce pas ? On ne va pas jusque-là. Mais c'est du même ordre. Puis il y a la croissance. Et puis il y a cette chose étonnante que le vivant est capable d'être source de vie. La procréation. Je crois qu'il faut tout le temps regarder ces trois grands moments de notre vie végétative qui se tiennent. Le premier, l'assimilation. La croissance. Et la croissance, elle se fait pour chacun d'entre nous différemment. Il y en a qui montent jusque 2 mètres. Et quelquefois plus aujourd'hui, parce que ça grandit. Quelquefois ça grandit trop. Alors on ne sait pas ce qu'il faut faire. Voilà. On va chez le médecin pour arrêter. Parce qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Alors, c'est pas gênant, tu vois. Et c'est vrai, c'est la croissance. Puis chez d'autres, au contraire, ça s'arrête très vite. C'est mystérieux, ça. C'est très mystérieux. On peut expliquer qu'il faut certains aliments produits pour faire, mais c'est quand même quelque chose du rythme profond, de l'équilibre. Alors il y aurait la croissance, et puis le haut plateau. Et puis à un moment donné, ça commence par les cheveux qui tombent. Et ils en dégringolent. croisant la vieillesse. La vieillesse. Tu fais que... C'est curieux, parce que l'âme ne vieillit pas. L'âme ne vieillit pas. C'est le corps qui vieillit. Mais comme il y a symbiose, une union si forte, on dira qu'on vieillit. C'est pas juste, on doit pas dire qu'on vieillit, on dit mon corps vieillit. Extrêmement important et qui a sa base au point de vue philosophique.